With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Si 2020 a été marqué par le Covid et l'arrêt prolongé des compétitions, il y a eu aussi du foot, des champions un peu partout et même un vainqueur de Ligue des Champions. Des footballeurs ont brillé également. Lequel a réussi la meilleure saison? Qui est le plus grand en 2020? Celui qui remporte nos suffrages? Pour une fois, cela n'a pas été trop difficile de se prononcer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le meilleur footballeur de l'année 2020 dans le cadre de l'Eurosport Star Player of the Year. Pour m'accompagner, plusieurs journalistes de la rédaction d'Eurosport qui ont participé au vote. Maxime Dupuis, Martin Mosnier, Vincent Brégevin, Cyril Morin et Glenn Cellier. Salut messieurs.
Salut Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, nous allons dévoiler ce top 10. Maxime, est-ce que tu peux nous dire qui a remporté ce Eurosport Star Player of the Year?
Alors déjà, première chose, ça a été une consultation européenne avec toutes les versions d'Eurosport, donc les 11 versions d'Eurosport, et il y a un vainqueur qui se dégage de très très loin. Il s'appelle Robert Lewandowski. Il a quasiment été élu à l'unanimité aux premières voix, puisqu'il a fait une saison complètement dingue. Le Polonais du Bayern... Il devance de très loin Neymar, le Parisien, et le podium est complété par Manuel Neuer, le Bavarois, le gardien du Bayern Munich. Ensuite, je vais vous citer de 4 à 10 ceux qui font le top 10. Quatrième, on retrouve De Bruyne de Manchester City, Kimmich du Bayern, Sergio Ramos, le Real, Ronaldo, Messi en 7 et 8e. Les deux inséparables qui ne se quittent pas, mais qui sont très loin du classement. Pour une fois n'est pas coutume sur la dernière décennie. Mbappé est 9e et à la 10e place, on a un duo qu'on n'a pas pu départager. C'est évidemment la pépite Haaland de Dortmund et Sadio Mané, le joueur de Liverpool.
Comme tu le disais, Maxime, Lewandowski est élu à la quasi-unanimité. Messieurs, Lewandowski qui a fait une saison incroyable, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur, j'en passe et des meilleurs. Pour vous, c'était évident aussi?
Pour moi, oui, il y a clairement pas photo. Il remplit, il coche toutes les cases pour moi, Lewandowski. Et notamment parce que collectivement, évidemment, le Bayern a surdominé cette saison. Ils ont tout raflé. Et en plus, les performances, on l'a vu, il marque but sur but. Il est décisif presque à tous les matchs. Il met plus de 40 buts encore cette année. Il fait mieux qu'évidemment les machines Ronaldo, Messi, Enco. Et voilà, il se met dans un niveau où on ne l'attendait pas forcément. On sait que depuis des années il était déjà énorme, mais là cette année il remplit vraiment pour moi toutes les cases pour être le joueur de l'année.
Pour moi il profite de deux choses, déjà de l'effacement de Ronaldo et de Messi, qui sont quand même des favoris naturels à ce genre de récompense, et comme le disait Glenn, c'était un peu évident que Lewandowski c'était le meilleur avant-centre du monde quand même depuis quelques années. On lui reprochait de ne pas être décisif dans les matchs qui comptent, puisque depuis 2013 et son quadruplé contre le Real, il n'avait pas marqué un but quand même en phase finale de Ligue des Champions. Il en marque en huitième, il en marque en quart, il en marque en demi. Donc en fait, c'est celui qui applique la sentence au bout de la chaîne du Bayern. Ça devait être un joueur du Bayern, mais parfois c'est un peu difficile d'extraire une individualité. Mais là, comme c'est l'avant-centre, comme c'est celui qui marque, donc comme c'est celui qui a les plus grosses statistiques en 2020, bah c'est évident en fait. C'est juste évident que c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est le bourreau du Bayern de Munich, c'est celui qui applique la sentence collective. Et bah, c'est pour ça que c'était évident que ce soit Lewandowski cette année.
C'est un petit peu le prolongement de l'équipe d'Allemagne 2014 qui n'avait pas réussi à obtenir le ballon d'or via un de ses joueurs sacrés en Coupe du Monde. Là, lui, il est là pour conclure les actions du Bayern Munich. Et effectivement, c'est celui qui symbolise cette espèce d'hyperpuissance de la meilleure équipe européenne qui a absolument roulé sur tout le monde. Donc, il n'y a pas eu de débat parce que le Bayern aussi est la meilleure équipe européenne de très, très loin sur l'année écoulée.
Oui, c'est ça. C'est l'individualité qui se détache pour moi
Dans cette équipe-là, et c'est vrai que, comme disait Martin, à l'extrémité, c'est ce qu'on retient le plus en général dans une équipe. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs que Neuer soit bien placé aussi. Ouais. Moi, je trouve que dans les deux surfaces, le Bayern était surarmé cette saison. Et Lewandowski, hormis la finale où il ne marque pas, mais quand même, il a un impact. Globalement, il marque à chaque match quasiment. Il y a des séries de matchs consécutifs où il marque qui sont totalement impressionnantes. Personne n'a fait mieux. Pour moi, c'est très logique qu'il arrive en tête.
On dit qu'il faut, ce que tu disais Vincent, on dit qu'il faut avoir un grand avant-centre, un grand gardien pour aller loin. Bah là, en l'occurrence, pour le Bayern, c'est typiquement ça. Et ce qui m'impressionne, moi, avec Lewandowski, c'est qu'il fait ça au début d'une nouvelle décennie. On sait que la dernière décennie a été marquée par Ronaldo et Messi. Il suffit de regarder le palmarès du Ballon d'Or et il suffit de regarder aussi le FIFA Player of the Year où les deux joueurs ont dominé pendant 10 ans. Or, une fois avec Modric, et Modric, il les avait battus sur un autre terrain. Lui, Lewandowski, ce qui est fascinant et ce qui donne encore plus d'ampleur à la performance, c'est qu'il allait sur leur terrain, celui des buts, celui des statistiques, et que pourtant, on parle de lui comme d'un joueur d'équipe. Donc, c'est assez formidable d'avoir ce double impact, c'est-à-dire d'être un joueur du Bayern dans un gros collectif, mais pouvoir ressortir individuellement. C'est parfois un désavantage parce qu'on vous voit peut-être des fois un peu moins, mais les fois où on vous voit, c'est formidable parce que là, vous cochez toutes les cases. Et puis, très personnellement, j'aime bien ce genre de joueur. Moi, Lewandowski, il y a quelque chose de… j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu un Van Basten un peu plus robotique, mais il y a cette élégance du joueur qui sait à peu près tout faire et tout bien. Donc, voilà. Je pense que les rédactions européennes lui aient donné, je crois qu'on est à peu près à 95% de lui avoir donné des premières places. C'est tout sauf une surprise et c'est vraiment amplement mérité.
C'est intéressant ce que tu dis, Maxime, parce que c'est vrai, quand tu parles à Van Basten, l'élégance, c'est vrai que c'est un joueur agréable à regarder jouer, mais c'est aussi un buteur d'un autre temps, j'allais dire, parce que les grands avant-centres comme ça, il y en avait presque plus qui arrivaient à briller, à être aussi présents dans les récompenses de fin d'année, depuis Tchétchenko, en fait, en 2004, on va dire, à peu près. Et voilà, Lewandowski a montré que c'était possible d'aller jouer dans les eaux de Messi et de Ronaldo, de lui aussi affoler les stats et d'être déterminant. Et je dirais qu'en plus, il profite pleinement de cette année Covid, avec le Covid, parce qu'on l'a vu, évidemment, il n'y a pas l'Euro qui s'est joué cette année. Eh bien, ça a joué pour lui, parce qu'avec la Pologne, on sait qu'il, malheureusement, on va dire, il ne peut peut-être pas peser dans les votes individuels. Parce que la Pologne ne brille pas comme d'autres sélections sur la scène internationale. Cette année, il n'y a pas eu d'Euro et voilà, il a pu aussi surfer sur cette puissance collective avec le Bayern. Tant mieux pour lui parce que il le mérite amplement.
Ouais, moi c'est peut-être la limite que je mettrais quand même. Alors on a tous voté ici pour Lewandowski numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Là, moi, j'arrive pas à savoir si ce Bayern Munich aurait été champion d'Europe. Sans Robert Lewandowski, il bénéficie quand même derrière lui d'une armada qui est très bien représentée d'ailleurs dans ce top 10 entre Kimmich, Neuer, on en parlera sans doute après. Moi, c'est quand même la limite que j'ai encore vis-à-vis de Lewandowski. Je ne suis pas un fan immense de ce joueur-là, mais je n'arrive pas à savoir si sans ce Bayern Munich-là, il aurait pu prétendre à autant de choses en 2020. Et surtout, si le Bayern, est-ce que le Bayern aurait pu être champion sans lui? À mes yeux, oui.
J'ai des sérieux doutes là-dessus. D'ailleurs, j'en parlais il y a peu de temps avec Jean-Pierre Papin, qui me disait que justement pour lui, le Bayern justement était axé sur Lewandowski, jouait pour Lewandowski, avait besoin d'avoir un grand buteur comme ça devant pour conclure un peu toute.
Ouais, mais du coup, il est interchangeable. Tu peux mettre un autre numéro 9 très compétent.
Je suis pas sûr que tu puisses avoir autant d'efficacité. Sûrement, peut-être. D'ailleurs, c'est toujours compliqué de se projeter. Mais je pense qu'il remplit aussi beaucoup, beaucoup d'atouts pour briller dans le jeu du Bayern.
Ce qui est difficile de lui en vouloir, là, c'est de dire il est le fer de lance. Et Martin, ouais, il disait que c'était l'alarme fatale d'un collectif hyper bien huilé. Alors évidemment, ça se voit moins que quand Ronaldo met un triplé après avoir remonté un 2-0 à l'aller. Mais le problème, c'est que le Bayern, c'est que le Bayern n'a pas besoin de ça. C'est que la machine marche très bien et tout le monde est à sa place et parfaitement. Est-ce que le Bayern aurait été champion avec un autre avant-centre? Honnêtement, j'en sais rien. Mais il se trouve que c'était lui et il met quand même 15 buts en Ligue des Champions. Et à ces hauteurs-là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. On a dû avoir 17 buts Ronaldo et peut-être. Ouais. Je ne sais même pas si Messi a déjà fait, j'ai pas vérifié les chiffres, a fait ça une fois en Ligue des Champions. Donc ça reste formidable et je trouve que tu as raison. Peut-être que si tu mets un autre attaquant à sa place, ça marche aussi. Mais en l'occurrence, c'était lui et c'est quand même pas mal.
Moi, je ne suis pas sûr que ça marche aussi parce que c'est l'homme idoine.
Oui.
Et il n'y a pas beaucoup d'avancantes qui ont son profil aujourd'hui en Europe, des vrais attaquants de surface comme ça. Et ce Bayern-là, il est construit pour faire briller l'attaquant de surface. Il est construit avec des ailiers, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le Bayern, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec des ailiers qui le gaffent de centre, avec un Thomas Müller qui joue parfaitement derrière lui et qui tourne autour de lui parfaitement, avec des arrières latéraux aussi, notamment Alphonso Davies, qui, pareil, le gaffe en passe décisive. Donc, je ne suis pas sûr, par exemple, tu parlais d'Agüero, qui est un profil totalement différent. Je ne suis pas sûr qu'un Agüero, avec Agüero, le Bayern aurait gagné la Ligue des Champions. Ça, je ne suis pas certain. Et puis, il ne faut pas quand même oublier ce qu'il a fait jusqu'ici, parce qu'on parle de son année à Lewandowski, mais quand on regarde toutes les années précédentes, il est toujours dans les classements des meilleurs buteurs. Que le Bayern marche bien ou que le Bayern marche un petit peu moins bien, il fait une finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Moi, ce que je trouve sympa cette année, c'est que ça soit enfin la sienne et que ce soit indiscutable. Et on a l'impression que pour que lui soit premier, il faut que ce soit indiscutable. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, Cyril, il a un déficit de charisme, un déficit de notoriété parce qu'il est polonais, parce qu'il n'est pas un super dribbleur. Et ce qu'on, aujourd'hui, ce qu'on, les valeurs qui sont mises au pinacle, les valeurs actuelles qui sont mises au pinacle, il n'en dispose pas. Et donc, moi, je trouve ça sympa que cette année du Villemain ait mis tout. Et tout aligné pour que ce soit enfin lui qui soit récompensé.
Et j'ajouterais qu'il ne joue pas dans un club qui a promu le marketing comme la première valeur pour ses joueurs. Et ce n'est pas un club non plus qui fait, comment dire, qui fait campagne pour ses joueurs pour le Ballon d'Or. Parce que du coup, ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début. Il serait bien embêté pour choisir. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas forcément une tête qui dépasse naturellement, pourquoi choisir Lewandowski à la place de Neuer ? Ce n'est pas dans le genre de la maison. Donc je pense qu'il le, entre guillemets, qu'il le paye un peu. Et c'est pour ça que c'est réjouissant qu'un joueur, pour le coup, qui ne vient pas d'Espagne ou qui a été hyper marketé, aussi fort soit-il, parce que je ne suis pas en train de dire que Ronaldo et Messi n'ont pas mérité tout leur laurier, bien au contraire. Il y a peut-être une ou deux fois où ils auraient dû leur échapper. Pour le reste, c'était tout à fait logique. Donc, c'est plutôt bien qu'une pour une fois, ce soit un joueur qui est polonais, qui n'est pas d'une immense nation du foot, qui soit récompensé parce qu'il a porté et il a donné sa pierre à un édifice qui est formidable, c'est celui du Bayern Munich.
Pour aller dans votre sens et faire court, je le répète, mais l'année dernière, il finit meilleur buteur européen touchant toutes compétitions confondues et il est très loin dans les votes de fin d'année. Donc, ça en dit aussi un peu long.
Et cette fois-ci, il est devant. Et pour parler des vertus collectives du Bayern, il y en a deux autres. Hein. On l'évoquait, Neuer qui finit troisième et Kimmich qui finit cinquième. Ces joueurs-là, vous les, toi, Maxime, tu évoquais le fait que ça aurait pu être Neuer, ça aurait pu être peut-être Kimmich. Est-ce que Neuer, on en a beaucoup parlé, notamment dans le Final 8. C'est un gardien, c'est ça qui le dessert. Mais troisième, c'est un podium, c'est quand même un beau score.
Ouais, ça aurait pu être Neuer, mais ça peut pas être Neuer, parce que simplement, les votants que nous sommes, c'est un défaut, il faut le dire. On voit toujours ce qui brille plus. En gros, l'attaquant aura toujours un avantage sur le défenseur ou le joueur à vocation défensive, c'est-à-dire qu'il construit, qu'il bâtit quelque chose, alors que le défenseur ou le gardien est toujours vu comme quelqu'un qui casse quelque chose, qui finit quelque chose. Donc, c'est pas positif. Donc, le problème, c'est que Neuer ne pourra, aussi bien dans le Ballon d'Or que le reste, ne l'aura sans doute jamais. Et c'est terrible parce que la finale de Neuer, elle est exceptionnelle. Et je retiens une image de Neuer pendant la finale. C'est presque pas tous ses arrêts pendant le jeu. C'est vers la fin, quand Mbappé est hors jeu, il tape quand même au but et Neuer la sort quand même. Donc là, vous vous dites, il n'y a rien à faire, ça ne passera pas. Voilà, Neuer, c'est un formidable gardien. Et si je devais ajouter quelque chose sur lui, c'est que je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Il a 34 ans, il y a eu sa fracture, ses fractures qui n'arrivaient pas à se réparer. Commencé à dire, ouais, c'est fini, il est perdu. Il s'est fait enterrer à un moment. Il a connu des années qui n'étaient pas évidentes. Et là, il revient au top. Et c'est vraiment. Je ne sais pas où je le coincerais aujourd'hui dans la hiérarchie des gardiens historiquement. Mais une chose est sûre, par ce qu'il a fait, par ce qu'il fait toujours, je pense qu'on est quand même dans le top 3 ou 4 de l'histoire parce que c'est un gardien tellement immense.
Vas-y, Vincent.
Vas-y. Moi, je pense que ça doit être souligné, ça. Le mec capable de rebondir à son âge en plus quand il a eu des problèmes, quand il a même été critiqué des fois parce que la remise au niveau a pas été très facile pour lui, c'est quelque chose qui doit être mis en valeur. Et dans le cas de Neuer, honnêtement, on parlait de Lewandowski tout à l'heure comme l'homme décisif. Lewandowski n'a pas marqué en finale. Neuer, lui, vraiment fait la finale du Bayern. C'est-à-dire que clairement, si le PSG ne mène pas en première période, c'est uniquement Neuer parce qu'en plus, les positions de tir parisiennes à ce moment-là, sont quand même très, très intéressantes. Donc, il y a vraiment un rôle du gardien. Ce qui traduit aussi qu'en fait, il évoluait dans une équipe, certes, collectivement supérieure, mais qui concédait beaucoup d'occasions de but, beaucoup d'occasions nettes. Et honnêtement, il a répondu présent en Bundesliga. Il ne faut pas non plus négliger son rôle là-dessus. En demi-finale contre Lyon également. Enfin, voilà, il y a eu des... Neuer est décisif aussi quasiment à chaque match avec le Bayern. C'est vrai que, comme disait Maxime, on donnera toujours la prime à l'attaquant parce que marquer des buts, c'est difficile. Et franchement, Lewandowski, on a dit qu'il ne driblait pas, on a dit qu'il n'était pas très rapide. Marquer autant de buts sans avoir ces qualités-là, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Maintenant, clairement, Neuer, ça va au chapitre. Moi, c'est vraiment l'autre individualité pour moi qui se détache dans le Bayern. Et il faut reconnaître que dans le gros match de l'année contre le PSG, c'est probablement lui le meilleur.
Ouais, ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce qui me fascine avec Neuer, c'est que c'est un petit peu comme Sergio Ramos qui fait partie de ce classement. Il y a une espèce de domination qui ressort de lui. Il arrive à manger le cerveau de ses adversaires, quoi. Et donc, on l'a vu en finale avec Mbappé et Neymar, mais ce n'est pas la première fois. Et on a l'impression que son aura dépasse le simple cadre de son poste et qui rejaillit sur beaucoup de monde autour de lui. Et moi, ça, pour un gardien de but, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. On se souvient que bon, la tradition allemande, on ne vous refait pas des dessins, Oliver Kahn, etc. Ça a toujours été des joueurs un peu charismatiques. Mais chez Neuer, il y a cette capacité à exterminer, entre guillemets, les espoirs de l'adversaire qui est vraiment fascinante.
Ouais, moi, je trouve... on avait fait un podcast sur... ceux qui méritaient le Ballon d'Or, ceux qui ne l'ont jamais eu, voilà, les meilleurs joueurs ne jamais avoir eu le Ballon d'Or. Je pense que Neuer, il fait partie de ces joueurs-là parce que, et on l'a revu d'ailleurs cette année, au-delà de ses performances en finale, c'est quand même un mec qui a révolutionné son poste. Il a révolutionné son poste et il n'y a pas 50 joueurs qui révolutionnent un poste sur même un siècle. Je veux dire, Neuer, c'est une autre définition du poste de gardien de but. Et sur l'année qu'il fait là, c'est le deuxième visage du rouleau compresseur du Bayern, hein. C'est ce qu'a très bien expliqué Vincent. C'est un petit peu injuste qu'il ne soit jamais récompensé. Moi, j'aurais plus donné en 2014 qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, pour tout ce qu'on a dit sur Lewandowski, mais je trouverais ça profondément injuste, et c'est ce qui va se passer, que sa carrière se termine sans avoir jamais touché au Graal suprême de la récompense individuelle. Voilà, je trouve ça profondément injuste pour Neuer. Et ça aurait pu être cette année si Lewandowski avait peut-être marqué 20 buts de moins. Ça fait beaucoup, 20 buts quand même.
Un autre, si vous voulez qu'on passe au deuxième de ce classement, parce qu'on a évoqué Lewandowski premier, Neuer troisième, et pas deuxième, parce que devant, il y a Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Je sais que là-dessus, messieurs, il y a débat. Est-ce que Neymar sur le podium et à la deuxième place, ça vous semble légitime ?
Pour moi, il n'y a pas débat. Hein.
Moi non plus.
Pour moi, il n'y a pas débat. Bah, il peut y avoir débat avec Neuer. Allez, on y va. Mais c'est le meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe d'Europe. Et là-dessus, il n'y a pas de débat du tout. C'est-à-dire que Neymar, il a apporté le Paris Saint-Germain jusqu'à mercredi dernier en Ligue des Champions. Fanaleit, c'est lui qui porte le PSG. Contre Manchester United, c'est quasiment un 16e de finale qui s'est passé contre Manchester United. On a vu ce que ça a donné. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et quand il est en jambes, c'est-à-dire quand il joue, quand il peut jouer, voilà, on voit ce que ça donne. Neymar, il a été au niveau des attentes qui ont été placées en lui. Il a raté, je dirais, un match. Un gros match, c'est sa finale. C'est pour ça qu'il n'est pas premier. Voilà. Il a raté un match, c'est sa finale. Mais sinon, chaque fois qu'il a été bon, bah, Paris est passé. Paris, alors il y a cette finale, mais il y a tout ce qui est à côté aussi. En termes de titres, et ça compte quand on délivre les récompenses individuelles, en termes de titres, il a tout gagné cette année, sauf la Ligue des Champions. Il arrive en finale. Donc, c'est au moins logique qu'il soit sur le podium. Après, avec Neuer, il peut y avoir un débat, mais pour moi, il se devait de figurer sur le podium.
En plus, il récupère. Il n'y a pas d'autres candidats qui ressortent. On parlait du Bayern Munich qui présentait beaucoup de profils qui auraient mérité le laurier. Là, concernant Paris Saint-Germain, Mbappé est 9e, mais il arrive quand même très très loin. Neymar, par la force de son Final 8, qui, rappelons-le, est quand même réalisé dans des conditions particulières. Mbappé est blessé au début. Verratti n'est pas là pendant longtemps. Donc, il assume un peu tout au Paris Saint-Germain. Le plan de jeu, il n'existe pas. C'est juste donner le ballon à Neymar et voir ce qui se passe. C'est très limité pour un finaliste de Ligue des Champions, mais par son seul talent, il a réussi à faire que ce plan de jeu-là fonctionne.
Moi, je suis totalement d'accord sur Neymar. Évidemment, pour moi, il le mérite, notamment pour ce qu'il a fait au Final 8 et ce qu'il fait en Ligue des Champions, qui est le juge de paix. Il y a un petit bémol quand même là-dedans, c'est évidemment la Ligue 1 qui n'a pas pu se terminer, donc qui compte quand même beaucoup, beaucoup moins de matchs que les autres. Ça compte aussi parce qu'évidemment, c'est quand même plus facile de briller quand on est un peu plus frais dans les grandes rencontres. C'est quand même le petit bémol, c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être placé peut-être Neuer au-dessus de Neymar. Mais pour moi, de toute manière, c'est ce qu'ont très bien dit Martin et Cyril, étant donné ses performances en Ligue des Champions, et je le répète, c'est vraiment le juge de paix, la Ligue des Champions. Il le mérite totalement. C'est un joueur phénoménal. Il l'a montré cette année.
Moi, honnêtement, je pense qu'on parlait de Lewandowski tout à l'heure. Pour moi, Neymar, c'est exactement l'inverse de Lewandowski. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le joueur impactant. Et à la fois, c'est sa qualité et son défaut sur le PSG. C'est qu'on dit que c'est le joueur le plus impactant, celui qui porte le PSG jusqu'à la finale. Sauf qu'à l'arrivée, il ne marque pas, il ne fait pas de passe D. Il est déterminant dans le jeu, il n'y a aucun problème. Et quelque part, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de joueur à l'heure actuelle qui fasse autant de différence que Neymar dans tout, pour moi, à tous les niveaux. Il est capable de faire la différence dans n'importe quelle position sur le terrain. Après, encore une fois, il ne marque pas. Je rappelle que le parcours du PSG non plus, l'Atalanta, Leipzig, c'est bien qu'il ait fait de très bons matchs, mais ce n'était pas une opposition extrêmement relevée à ce niveau de la compétition. On avait affaire à des novices et pour le coup, il rate complètement sa finale. Donc moi, clairement, un mec qui est décisif en finale comme Neuer, oui, je l'aurais classé devant Neymar, mais peut-être que Neymar est le meilleur joueur à l'heure actuelle. Pour moi, même Messi fait moins de différence à l'heure actuelle. Mais sur l'année, être décisif, c'est super important. Et pour moi, Neuer l'a été bien davantage que Neymar.
Je suis d'accord avec Vincent sur le côté décisif. Je suis d'accord sur son influence. D'ailleurs, c'est intéressant cette discussion qu'on a parce qu'on parle de Lewandowski, on parle qu'il gagne par ses stats. Et on sait que généralement, les joueurs gagnent par leurs stats. Alors Neymar, évidemment, il a des stats, mais il faut le dire aussi. On a voté et le classement il est fait avant Manchester United et avant la soirée de la dernière journée de la Ligue des Champions. Voilà. Donc il y avait les stats avant, mais ce qui est presque fascinant avec Neymar dans ce que vous dites, ce qui ressort, c'est finalement il est classé deuxième par son influence dans le jeu, ce qui est un truc assez rare parce que justement on vous remet toujours dans le visage vos occasions ratées. Il y a son occasion ratée face à Bergame, tout ça. Donc ça en fait quelque chose de fascinant et presque un cas à part. Parce que être aussi haut avec des stats au moment, je dis bien, où ça compte, qui sont en berne, c'est embêtant. Et le moment où ça compte, pour moi, ce n'est pas le premier tour de la Ligue des Champions. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est formidable, mais j'aurais mis Neuer devant parce qu'il est, pour moi, plus décisif à sa manière, évidemment, et que j'aurais marqué le coup de placer un gardien, justement, devant Neymar. Parce que, pour moi, le PSG, en finale de la Ligue des Champions, il y est évidemment pour quelque chose, mais il manque quand même ce petit quelque chose qui vous fait franchir le cap au-dessus et qui fait peut-être que vous êtes champion d'Europe à l'arrivée.
Mais ce qui est intéressant avec Neymar, c'est qu'il bascule aussi, qu'il endosse le leadership, que ce soit sur le terrain et que ce soit aussi en dehors. Sur ce Final 8, tous les échos qu'on a eus, c'est que c'est lui qui a donné la direction, c'est lui qui a donné le cap, qui a dit à ses gars autour de lui, « Ok, je vais vous aider, mais aidez-moi aussi. » Et on lui a suffisamment reproché son individualisme, le fait de vouloir faire la différence tout seul, le fait de faire parfois un peu forcer. Mais ce petit changement quand même de caractère, ce petit déclic, et il a amené Paris avec lui. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant sur cette année civile, c'est que il a un petit peu mis son ego, ses états d'âme de côté pour faire de Paris une plus grande équipe. Et c'est ça aussi que je trouve bien de récompenser.
Ouais, moi je suis d'accord, c'est le retour un petit peu du Neymar qu'on avait pu connaître. Moi, il m'a fait penser au Neymar de la Coupe du Monde 2014. C'est un truc où, voilà, une équipe brésilienne qui était un petit peu en difficulté dans le jeu, qui savait pas trop quoi faire, je vous prends sur mes épaules et suivez-moi. Et voilà, c'est un petit peu le guide. Et pour ça aussi, il méritait d'être récompensé parce que c'est un joueur qui a été très haut très tôt, qui s'est un petit peu perdu jusqu'à présent. Dans ses choix de carrière, notamment le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain et toutes les blessures, on ne va pas refaire l'histoire. Mais donc là, le revoir à ce niveau-là, ça fait quand même très plaisir pour le football.
Et Paris l'a pris pour ça, et voilà, on sait pourquoi Paris l'a pris cette année. C'est clairement le cas.
Après avoir parlé du podium, il y a une anomalie qu'il faut relever quand même. Ronaldo 7e, Messi 8e, ça fait des années que ni l'un ni l'autre ne sont sur le podium. Ça vous laisse sans voix, ça vous donne envie de dire quelque chose?
Je dirais pas que c'est une anomalie, en tout cas pas sur cette année, notamment pour Messi. Pour être franc, je suis même un peu surpris que Messi soit aussi haut. Je suis un peu, c'est le problème. En fait, on a un peu l'impression qu'il a un totem d'invincibilité ou de, on peut pas vraiment le toucher. Messi, il est toujours là dans les votes de fin d'année. Cette année, Messi, il est quand même beaucoup moins. Alors, c'est un joueur fantastique. Il montre régulièrement, il fait des différences, mais il est quand même beaucoup moins décisif que les années précédentes. Il a levé le pied, notamment en termes, on le voit dans les stats. Hein, il a mis qu'une vingtaine de buts cette année. Alors à l'inverse, je suis un peu déçu de voir Ronaldo un peu plus bas. Il est septième du classement. Moi, je me souviens, je l'avais mis plus haut parce que je trouve qu'on banalise un peu ses performances. Déjà, il est champion d'Italie, auquel la Juve va pas hyper loin, se fait éliminer évidemment par Lyon en C1, mais il est d'une régularité hallucinante, Ronaldo, cette année. Les nombres de matchs où il n'est pas décisif, que ce soit en Ligue 1, en Serie A, pardon, et en Ligue des Champions, on les compte sur les doigts d'une seule main. C'est hallucinant ce qu'il fait. Il a des séries où il marque, il porte la Juve sur ses épaules. Et je trouve qu'on pourrait le mettre plus haut. Il faut un peu, à l'inverse de Messi, je trouve qu'on banalise un peu ce qu'il arrive à faire.
Mais ce classement trahit aussi, enfin, ce qu'on sait déjà, c'est l'importance de la Ligue des Champions, tout simplement. Tu te fais sortir en huitième, l'autre se fait sortir, Messi se fait sortir en quart. Ça peut difficilement aller plus haut.
Oui, mais Messi se fait sortir par un 8-2. En plus, c'est
Oui, mais alors je n'ai rien contre Lyon, mais la Juve se fait sortir par Lyon, c'est pas le Bayern non plus. Donc on peut aussi.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Après, il y a des années où l'un ou l'autre n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ils ont quand même gagné le Ballon d'Or.
Oui, mais si tu regardes l'histoire de la décennie, non, c'est de la demi-finale et tout ça. Je pense que, alors, j'ai pas vraiment tous les années en tête là maintenant, vous vérifierez, vous verrez. En général, ça va au moins jusqu'en demi ou en quart, voilà. Et il n'y a pas ce 8-2. Et après, Messi, ce qui le pénalise aussi, c'est que les chiffres sont pas, pour une fois, sont pas complètement dingos, tout simplement. Et aussi, si je faisais le parallèle avec Neymar, j'ai l'impression que ça s'est un peu inversé. Là, vous parliez tout à l'heure du leadership de Neymar qui est plutôt positif. On a l'impression qu'il est rentré dans un mood un peu différent. Bah, Messi, ce qui est ressorti cette année, il y a eu un petit côté toxique, voilà, tout simplement, de Messi. Et je pense que ça n'a pas aidé et ça n'aide pas. Maintenant qu'on les revoit dans le classement du 7 et 8, c'est comme les voir au Ballon d'Or aux 3 premières places, c'est-à-dire que c'est quasiment un vote automatique, voilà, tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Et c'est toujours très difficile de les sortir parce que, y a, comme disait Glenn, il y a toujours au moins les stats. Ronaldo, à son âge, il était. Enfin, ce qu'il fait est fascinant à 35 ans, donc c'est difficile de le sortir. Il est le fer de lance de la Juve. Donc voilà, mais je pense qu'il y a une forme d'automaticité. Mais moi, honnêtement, je ne suis pas choqué de les voir. Alors après, on peut discuter, hein. 6e, 7e, 8e, 9e. Mais pour moi, ils sont à leur place dans ces eaux-là. Voilà.
Moi, Ronaldo, il est. Enfin, moi, par exemple, quand je vois que De Bruyne est 4e, moi, je suis désolé. Enfin, Ronaldo, je l'aurais mis à la place de Bruyne. Parce que bah, Ronaldo, c'est vraiment le MVP. C'est sans lui, la Juve n'est jamais championne d'Italie. C'est vrai qu'il y a un gros boulot de Dybala. Mais clairement, la Juve gagne très, très peu. Collectivement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est clairement lui qui les porte jusqu'au titre de champion d'Italie. Et même, c'est vrai que Lyon, c'est pas le Bayern. Mais honnêtement, le seul joueur qui te donne l'impression que la Juve peut s'en sortir face à Lyon, c'est Cristiano Ronaldo, c'est personne d'autre. Donc voilà, il y a quand même ce statut de MVP, comme je disais tout à l'heure, qui est que lui a pu assumer cette saison. Les stats sont là. Et c'est vrai que moi, je l'aurais mis plus haut dans le classement, typiquement à la place de De Bruyne.
Mais de but, en plus.
À la quatrième place.
Quatrième De Bruyne,
ouais. Moi, je suis d'accord avec Vince. Pour moi, l'anomalie, ce n'est pas de voir que Messi est 8e, c'est de le voir dans le top 10 aussi. Moi, pour moi, il n'y a rien qui justifie vraiment sa place dans le top 8, si ce n'est l'automaticité dont parlait Maxime. Mais pourquoi on mettrait un Lionel Messi plutôt qu'un Salah, par exemple? Les stats sont à peu près comparables, mais Salah, il a gagné la Première Ligue. Ou qu'un Lukaku, qui met beaucoup plus de buts, mais qui gagne autant de choses que Messi, c'est-à-dire absolument rien, mais qui au moins fait une finale de Coupe d'Europe. Je veux dire, si on est un peu plus objectif sur Messi, et puis la déliquescence du FC Barcelone, comme tu disais, Max, il emporte la responsabilité, Messi aussi. Oui, tout repose sur lui, oui, il arrive à faire des miracles et tout, mais si le FC Barcelone se délite aussi, bah, il en a aussi une grande part de responsabilité, Messi. Donc moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est huitième, parce qu'on ne peut même pas se rattacher à un seul titre, on ne peut pas se rattacher à ses stats, et il y a beaucoup de joueurs en Europe qui font mieux que lui, que ce soit au niveau des stats et au niveau du palmarès, par définition. Donc, à part l'automaticité, je comprends pas Messi, et puis son début d'année et le début d'année du FC Barcelone ne plaident pas pour lui non plus, donc il n'y a pas grand chose à quoi se raccrocher. Quant à Cristiano Ronaldo, Vincent a tout dit, moi je suis plutôt d'accord avec.
Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Martin sur Messi. C'est marrant parce que d'habitude les années creuses pour lui, il avait toujours l'argument en Liga j'ai été le meilleur joueur, etc. Est-ce qu'il a été le meilleur joueur de la saison passée en Liga? Moi, j'ai un doute. Et on peut parler peut-être d'un joueur qui est absent de ce top 10, qui est Karim Benzema, qui pour moi a été beaucoup plus fondamental dans la saison madrilène que ne l'a été Lionel Messi dans la saison barcelonaise. Il est champion d'Espagne. Alors, les votes madrilènes se sont dirigés vers Sergio Ramos, c'est normal aussi. Mais Karim Benzema aurait mérité une place dans le top 10 que Lionel Messi récupère un petit peu par miracle. Je suis d'accord avec Martin.
Ouais, ou par habitude.
Oui, tout à fait.
Ouais, et puis alors la méthodologie de nos votes, elle est simple, c'est-à-dire qu'on devait, chaque journaliste de toute la galaxie Eurosport devait donner les 5 premiers. Et quand vous votez, bah, je pense qu'il peut y avoir des fois, on se dit, c'est l'automaticité, c'est de dire, bon, en 5e, je mets qui et le réflexe, c'est tout de suite, on pense à qui, voilà. Et je pense que c'est aussi beau que c'est terrible, je dirais, aujourd'hui, c'est qu'ils ont atteint un tel niveau et une telle aura sur la décennie que bah, on pense tout de suite à eux. Et donc voilà, oui, voilà, je pense que Messi, en effet, on pouvait. Moi, personnellement, je vais vous révéler mon vote, il n'était pas dans les 5, typiquement. Donc,
je dis tout de suite à eux, Maxime, mais je le répète, mais pour moi, Ronaldo mérite clairement d'être là et même au-dessus.
Non, mais je parlais de l'automaticité dans la tête des gens, c'est-à-dire que tu penses à un vote. Tu penses aux deux naturellement parce que c'est
Ronaldo. C'est deux légendes qui ont marqué la décennie.
Alors en tout cas, ils sont bas, on le disait. Deux autres jeunes poussent à la porte. C'est Mbappé qui est 9e et Haaland qui est 10e ex aequo avec Mané. Mbappé, Haaland, il y a aussi une petite forme d'automaticité à les voir déjà dans le top 10.
Pour Mbappé, oui. Pour moi, Mbappé, il y a une petite automaticité parce que pour moi, il y a un grand absent dans ce top 10. Donc je vais le dire, plutôt qu'Mbappé, s'il avait fallu mettre un deuxième parisien, et pour moi, c'est le deuxième grand joueur de ce PSG-là, c'est Marquinhos. D'accord. Marquinhos, il est décisif dans le Final Eight. S'il n'y a pas son but contre l'Atalanta Bergame, la saison de Paris devient une catastrophe. Il marque le premier but en demi-finale. Alors oui, les votes ont été faits avant Manchester, Maxime, tu le rappelais, mais il est encore là. C'est-à-dire que dans les grands rendez-vous, c'est toujours lui qui donne le là. Et l'effet miroir avec Mbappé, c'est terrible parce que Mbappé, lui, n'est jamais là. Il n'est jamais là dans les grands rendez-vous. Donc ce qui sauve Mbappé, c'est son palmarès et c'est le fait que, évidemment, ce soit le meilleur buteur du PSG sur la saison. Mais moi, je préfère, en plus, un Marquinhos qui est derrière et irréprochable, parce que ça, c'est la condition numéro une. Mais moi, Marquinhos, je l'aurais presque mis dans le top 5, voire 6e, parce qu'il fait une saison fantastique, absolument fantastique. Et s'il y a deux joueurs à ressortir du PSG, pour moi, ce n'est pas Neymar et Mbappé, c'est Neymar et Marquinhos.
Fantastique et pas à son poste, en plus.
Je suis totalement d'accord avec Martin. En plus, Marquinhos, il faut prendre en considération qu'il a un rôle de leader à endosser au PSG, qui était tenu notamment par Thiago Silva, un rôle de chef défensif aussi. Et les deux, il a su les assumer, en plus d'être décisif devant sur des matchs super importants. Donc, il y a une vraie progression en plus pour moi qu'il faut mettre en avant. Voilà, on attendait de voir s'il était capable d'assumer toutes ses responsabilités-là. On pouvait avoir quelques doutes parce qu'il n'a pas… Voilà, même s'il a globalement toujours donné satisfaction, il y a eu quand même deux, trois fois où éventuellement le doute était permis. Là honnêtement, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, dès qu'on le sort de l'équipe, Paris est complètement déboussolé, déstabilisé, et c'est clairement lui qui donne le ciment en fait, qui permet à cette équipe d'être solide.
Pour enfoncer un peu plus le clou sur Mbappé, j'aurais presque mis Haaland devant, parce que Haaland, c'est un petit peu la révélation, enfin révélation, c'est, le mot n'est plus adapté, mais c'est la comète que personne n'arrive à arrêter sur la planète foot sur l'année écoulée. Même sur le début de cette Champions League, c'est un des joueurs les plus importants qui est disputé la phase de poule. Donc pour moi, il méritait amplement d'être devant Mbappé, même si Mbappé est finaliste de Ligue des Champions. Mais comme l'ont bien dit Martin et Vincent, c'est peut-être pas le joueur le plus important du Paris Saint-Germain sur cette campagne européenne.
Après, il paye aussi sa blessure. Je pense qu'il est revenu très très vite pour essayer d'aider le PSG. Et je pense qu'il n'est pas du tout à 100%. Il fait une bonne entrée contre l'Atalanta, mais globalement, que ce soit contre Leipzig et puis contre le Bayern, on sent que ce n'est pas le gros Mbappé. Et puis évidemment, il paye aussi. On a l'image quand même des occasions ratées, cette frappe de mouche là qui sort contre Neuer. Où là, ça fait pas gros joueur futur ballon d'or. Quoi.
Dans l'équilibre des forces, Mbappé à Londres, qu'il soit devant, ça ne me choque pas. Si je pèse, on va dire, statistiques et accomplissements collectifs, je ne suis pas choqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de les voir là, alors évidemment avec Mané, à la 9e et 10e place, et sans trop… peut-être que vous me direz non pour Mbappé, mais je pense que l'année prochaine, il grimperont de 3 rangs et ainsi de suite. Donc, on est parti pour les retrouver un peu plus haut dans les années qui viennent.
Mais statistiquement, c'est peut-être les deux successeurs naturels de Ronaldo et Messi dans le volume de buts. Et de ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'on a l'impression que chaque fois qu'ils vont être sur le terrain, c'est de là, bah, ils vont devoir marquer. Loin de moi de les comparer pour le moment, parce qu'il est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas dans l'imaginaire, dans ce qu'on dans, ce dans qu'on les attentes cette année-là, c'est peut-être eux les deux successeurs, au moins en termes de volume de buts de Ronaldo et Messi.
Moi, perso, je rêve de les voir associés.
Ouais, ah bah, ils le seront peut-être dès l'été prochain.
Je crois que t'es pas le seul, un certain Florentino Pérez a la même idée que toi.
Je crois.
Est-ce que, messieurs, il y a d'autres noms que vous aimeriez, vous auriez aimé voir dans ce top 10? On a parlé de Marquinhos, de Benzema, où on a été complet.
Moi, je trouve que De Bruyne quatrième. Bon, j'avoue que alors, c'est le meilleur passeur de première ligue. Peut-être il y a un côté chez De Bruyne qui dépasse la stat et le palmarès. Voilà. Mais bon, Manchester City n'a pas fait une grosse saison. Il gagne, je crois, juste la Coupe de la Ligue, hein, il me semble, en Angleterre. Bon. Ouais. Ça me semble un peu léger pour figurer notamment au-dessus de Ronaldo.
À la quatrième place, je ne sais pas, mais je fais toujours confiance aux gens qui votent en Angleterre, qui l'élisent meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Généralement, ils connaissent très bien le football et ils voient aussi des choses qu'on ne voit pas, notamment quand ils élisent Kanté. C'est-à-dire que justement, moi, j'ai envie de… Quatrième, je ne sais pas, cinquième, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien que de temps en temps, il y a de la place pour des joueurs comme ça qui vivent par autre chose que par le but pur et dur. Et en effet, leur défaut, vous l'avez dit, enfin, le défaut de Manchester City, c'est pas avoir fait une grosse saison. Mais je me dis que sans lui, ça aurait peut-être été encore pire.
Il manque peut-être juste un représentant de Liverpool, en fait. Ouais. C'est ça qui est dommageable, c'est qu'on récompense De Bruyne quatrième, alors que historiquement, il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable en Première Ligue. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que même en Angleterre, ils ont eu du mal à trancher, puisque c'est Anderson qui a été élu par les journalistes, qui est peut-être le symbole, mais est-ce que c'est le meilleur joueur de Liverpool? Et j'en suis pas sûr.
Après,
c'est la force et la faiblesse de Liverpool, c'est exactement ça. C'est-à-dire
après, une année 2020 aussi un peu plus… Ouais.
Attention, ouais, on vote sur 2020, on ne vote pas sur 2019-2020. La vraie différence, ils l'ont fait notamment sur la fin d'année 2019 et le début d'année 2020. Ils sont un peu moins flamboyants, j'allais dire, même s'ils sont évidemment
cette saison,
très
ils n'ont pas d'effectif et ils sont premiers.
Non, je parle sur la fin d'année, fin de saison dernière. Mais moi alors, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. C'est plus, je suis content de voir Sergio Ramos aussi. J'avais envie de le souligner parce que j'aime son leadership, j'aime tout ce qui, cette âme, cette lame qu'il apporte au Real.
Et les buts décisifs.
Buts. Et je trouve que c'est sympa de l'avoir là parce que on ne parle pas assez souvent, justement, comme l'a dit Martin, peut-être avec Marquinhos, des défenseurs. Et là, je suis assez content de le voir là.
Moi, c'est mon petit regret. Moi, je l'ai mis plus haut moi, dans mon vote parce que je trouve que Ramos, c'est… Alors, évidemment, il y a Benzema qui aurait une place évidemment dans ce top 10. Mais Ramos, quand même, il suffit de voir ce qui se passe quand il est là et ce qui se passe quand il n'est pas là. C'est presque caricatural. Vous regardez la liste des résultats du Real. S'il y a des fêtes, vous pouvez parier 50 euros qu'il n'est pas là en général. Et ça paraît tellement caricatural, mais ça dit aussi son importance. Évidemment, il y a eu tous ses buts. Bon, il y a eu un kilo de pénalty, mais n'empêche, c'est un joueur formidable. Alors, il a ses défauts parce que c'est un défenseur, il est rugueux. Il a le vice qu'il faut, mais il a aussi le talent et c'est un des plus grands défenseurs de l'histoire, assez largement.
Il y a juste un truc que je voulais dire parce qu'on a passé très, très rapidement sur Joshua Kimmich. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisqu'on a parlé des deux extrémités du terrain. Lui, il est en plein milieu. Maintenant, c'est évident que, on parlait de mec décisif, typiquement, lui en finale, je veux dire, pour Coman, marquer un but de la tête, il fallait vraiment que le centre soit une merveille. Déjà, il y a ça qui a à prendre en compte. Puis surtout, ce que je voulais souligner, c'est quand même le mec qui a joué milieu défensif et arrière droit. Et pour moi, cette année, à son poste, que ce soit milieu défensif ou arrière droit, je n'ai pas vu un mec meilleur que lui. Hein. Et pour moi, il était ultra performant dans les deux postes et ça demande un niveau de jeu exceptionnel, que ce soit la tactique, le physique, la technique. Combiner ces trois trucs-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, Kimmich est un peu sous les radars. Et c'est vrai que là, je le vois cinquième. Moi, je l'avais mis un poil plus haut. Je pense que cette année, c'est quand même sur le terrain un des meilleurs joueurs que j'ai vu, ouais, clairement.
Très bien, messieurs. Merci. Je pense qu'on a été complet. On a évoqué le top 10 plus quelques-uns. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Vous recevrez comme ça les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Eurosport Star Player of the Year, c'est Robert Lewandowski. Je vous souhaite une bonne semaine.
Salut.
Salut. Salut.
Thank you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.